Seigneur, nous te rendons gloire, nous te bénissons pour tous tes hauts faits. Nous te sommes reconnaissants parce que tu es le Dieu vivant, le Dieu d'amour, le Dieu qui nous aime et le Dieu qui a des projets de paix et de bonheur pour chacun d'entre nous. Nous nous remettons entre tes mains, priant que tu nous guides et que tu nous bénisses. Priant que la parole que nous entendrons puisse être ancrée dans nos cœurs et que nous puissions l'utiliser au moment venu pour témoigner, mais aussi pour rester connecté avec toi, notre Dieu, notre Père. Par Jésus, notre frère, nous te prions. Amen.
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 Et voilà la lecture. Pour continuer notre culte, nous lisons dans 1 Chronique chapitre 29. J'aimerais lire du verset 11 au verset 15. 1 Chronique chapitre 29, verset 11 à 15, mais je commence avec le verset 10. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit : Béni sois-tu d'éternité en éternité. Éternel, Dieu de notre Père Israël, à toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est de ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons, nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je? Et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi, des étrangers et des habitants. Comme tous nos pères, nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. Quelle prière, frères et sœurs! Cette prière de David, quand j'ai terminé une phrase, je m'attendais à ce que vous puissiez dire « Amen ». C'était vraiment chaque mot ponctué, demander que nous puissions dire, que nous puissions nous joindre à David pour dire « Amen ».
Amen.
Pour ce que Dieu est, pour ce que Dieu fait pour nous, pour Amen. La grandeur de Dieu, la force, la magnificence. On dit que l'éternité est la gloire. Car tout ce qui est au ciel, regardez, tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient.
Amen.
À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Quel Dieu nous sommes en train d'adorer ce matin.
Alléluia.
Le Dieu qui a tout, tout alors. Et vous savez que parfois, nous déménons, nous oublions qu'il y a le Dieu qui a tout. Il a tout créé, dans le ciel et sur la terre. Je suivais une émission hier où on était en train de parler des extraterrestres, des aliens qui auraient même placé la lune là où on n'a pas, et ainsi de suite. J'ai trouvé ça vraiment ridicule. Et parce que quand je lis la parole de Dieu, il me montre que Dieu, tout ce qui est dans le ciel et sur la terre, c'est Dieu qui a fait.
Amen.
Alors nous allons nous joindre aux anges, aux archanges, aux chérubins, à toute l'armée du ciel qui loue l'Éternel.
Que ces lieux soient balayés
que ces lieux soient visités. Quand nous chantons que ces lieux soient visités, nous pensons à notre église, là où nous nous rassemblons dans les bâtiments.
Amen.
Mais en ce moment, nous, quand nous chantons comme ça, nous voulons que nos maisons, n'est-ce pas, là où nous sommes, que ça soit vraiment visité par l'onction de Dieu, par la présence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit inonde nos cœurs, nos vies et inonde nos maisons.
Amen.
Quelle joie! Mm-hmm. J'ai lu une autre adoration et louange dans Apocalypse, chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 8 au verset 11. Vous voyez tout aujourd'hui commence soit avec 11, termine avec 15. Et ici, on commence avec 8, on termine avec 11. Voilà ce qui est dit dans ce livre. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu y es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Voilà combien notre Dieu est adoré. Nous avons vu dans l'Ancien Testament David qui loue Dieu, qui adore Dieu. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons, on nous décrit ce qui se passe au ciel. C'est formidable, n'est-ce pas, de voir que les êtres célestes, les anges, les archanges, les chérubins, et la description est vraiment étonnante, de voir que ces êtres ont aussi ailes, et ils ont des yeux partout. Ils louent Dieu jour et nuit, 24 heures sur 24. Quand moi je dors et je ne peux pas louer Dieu, il y a ceux qui louent Dieu, ceux qui l'aiment, ceux qui l'adorent. C'est donc dire que notre Dieu ne souffre pas du fait que nous l'adorions. Parce que si vous ne l'adorez pas, sachez qu'il y a ceux qui l'adorent jour et nuit.
Amen.
N'est-ce pas? Et cela devrait nous inciter aussi à l'adorer, à le louer, à le glorifier. Mais parfois, nous faisons économie de nos mots. Nous faisons économie de notre louange. Mais nous voyons que Dieu ne souffre pas. Si vous vous taisez, vous savez ce que Jésus avait dit à ses disciples, avait dit répondant aux gens qui lui disaient, « Dis à tes disciples de ne pas crier. » Il leur a dit, « Si ils cessent de crier, les pierres crieront. »
Amen.
Dieu est adoré 24 heures sur 24. Nous ne faisons que nous joindre, n'est-ce pas, cette armée céleste et à tous les saints qui se consacre à la louange de Dieu. J'ai déjà présenté Emmanuel au début de ce culte et je lui passe immédiatement la parole.
Merci. J'ai dit merci au pasteur, merci à toute l'église des chemins, merci à mes frères et sœurs. Merci pour les privilèges que vous me donniez de partager avec vous la parole de Dieu ce matin. Et je vous salue au nom merveilleux et incomparable de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
Amen.
C'est un privilège pour moi et pour partager avec vous ce matin. Et j'ai lu pour nous les textes que nous trouvons dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 6. Et j'ai lu un seul verset. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Notre méditation de ces jours se limite à cette partie. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse?
Amen.
Je vous exhorte donc, mes bien-aimés, de lire tous les contextes, tous les textes, tous les chapitres 9 pour comprendre le contexte dans lequel cette phrase est sortie. Il s'agit de Paul qui est sur le chemin de Damas. Et sur ce chemin, il rencontre Jésus-Christ. Il va pour persécuter l'église de Jésus-Christ. Avec toute sa force et son énergie, voilà qu'il tombe par la puissance de Jésus-Christ et par terre, il crie, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il s'adresse à Dieu, donc c'est une prière. Nous allons parler de cette prière aujourd'hui. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Rarement nous faisons cette prière-là, nous les chrétiens, parce que je m'adresse aux chrétiens. Nous faisons toutes sortes de prières. Et c'est recommandé dans la Bible de faire toutes sortes de prières. Nous demandons à Dieu beaucoup de choses. Et même Jésus-Christ nous demande et nous recommande, nous exhorte même. Il nous dit, demandez, vous recevrez. Frappez, il vous sera ouvert. Il nous exhorte de demander et nous demandons. Et autant d'années que nous avons fait dans le Seigneur, nous avons demandé beaucoup de choses. Et nous avons vu beaucoup de choses que Dieu aussi a faites en réponse à nos prières. Mais ici, cette prière est un peu spéciale. Le contenu de cette prière est que, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Des fois, nous enseignons que quand quelqu'un va grandir dans le Seigneur, il va arriver le moment où il peut faire cette prière. Mais ici, contrairement à ce que nous connaissons, ou nous pensons, ou nous enseignons, Paul le fait à la conversion même. Il pose la question à Jésus, que veux-tu que je fasse? Et là, immédiatement, la réponse est donnée, on va te montrer ce que tu vas faire. Comprenez qu'ici, Jésus ne dit pas que moi, je vais te montrer ce que tu vas faire. Il dit, on remplace par quelqu'un d'autre. Et si vous suivez l'histoire jusqu'à la fin, vous allez trouver que Jésus va parler à une autre personne ailleurs. Il voit aussi la vision. C'est Ananias. Il l'envoie pour qu'il puisse venir prendre Paul, le mettre debout, prier pour lui et l'enseigner ce qu'il va faire. Parce qu'à ce moment-là, Dieu va parler à Ananias, lui dire que c'est au moins je l'ai choisi pour qu'il puisse accomplir ma volonté. Et alors, il envoie Ananias et Ananias vient le prendre. Et c'est Ananias qui va commencer à enseigner à Jésus, plutôt à Paul, jusqu'à quand Paul va se retrouver un jour dans l'église et la prière sera, Dieu intervient en disant, mettez-moi à côté Paul et Barnabas pour le travail pour lequel je les ai appelés de faire. Et il ne dit pas à Paul, il dit à l'Église, il dit aux autres. Or, la prière était adressée à Jésus. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Tel est notre sujet de méditation. Même si nous oublions toutes choses aujourd'hui, retenons au moins cette prière. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Un jour, après avoir terminé les études, je suis rentré dans mon pays. Je suis d'origine congolaise. Et j'ai parlé aux responsables de l'Église pour leur dire que Dieu me met à cœur de commencer une église au centre-ville où il n'y avait aucune église de genre protestante. Alors, les responsables de l'Église me disent, oui, c'est une très bonne chose. Si Dieu t'a mis cela dans le cœur, fais-le. Mais nous n'avons pas le poste budgétaire pour supporter ce que tu veux faire. Ou t'es supporté, toi, ta famille. Il y a une famille. Et alors, j'ai commencé à travailler. Ma raison ici, ce n'est pas de vous raconter cette histoire, mais de vous dire ce qui est arrivé pendant qu'on était en train de travailler. Un dimanche, après un culte, j'ai vu une dame qui était jeune fille que nous avons accueillie dans notre maison quand elle est venue pour étudier dans la ville et qu'elle avait déjà terminé. Elle habitait chez sa grande sœur qui lui a donné une enveloppe avant qu'elle vienne à l'église. Alors, il me tend une enveloppe et aucun de mes poches ne pouvait pas contenir l'enveloppe. J'ai essayé dans toutes les poches, ça ne pouvait pas, même poche de pantalon, de chemise. Heureusement que les dames marchent souvent avec les sacs à main, et j'ai donné à mon épouse. Et arrivé à la maison, après avoir mangé, nous sommes dit, ouvrons cette enveloppe. Et quand nous avons ouvert, nous avons commencé à compter, et c'était de l'argent, bien sûr. La table ne pouvait pas contenir la somme d'argent que nous étions en train de compter. Nous nous sommes déplacés du salon jusqu'à la chambre à coucher sur le lit. Et nous avons commencé à compter l'argent, moi et mon épouse. Nous avons compté et compté. On commençait à se fatiguer parce que c'est la première fois qu'on puisse compter comme ça. L'argent a commencé à nous compter aussi. Et nous comptions. Et nous faisions que compter. Nous nous sommes fatigués de classer et de reclasser. Et à la fin, nous avons trouvé que c'était 3 millions, s'il vous plaît. 3 millions. Bien sûr, à ce temps-là, de francs congolais ou des Zaïre. Pour ceux qui connaissent la monnaie congolaise dans les temps. Alors, nous sommes regardés avec mon épouse, nous sommes devenus des millionnaires. À un après-midi, nous étions des millionnaires. On n'avait pas fait les affaires. On n'avait pas prêché sur l'argent. On n'avait pas parlé à personne de nos besoins. Et nous sommes devenus des millionnaires un après-midi. Puis, ce n'est pas que nous ignorons ce qu'il faut faire avec l'argent, parce qu'on avait des enfants envoyés à l'école, on avait des habits à acheter, on avait des bijoux à acheter, on avait des meubles à acheter, on avait tout ce qu'on pouvait faire, on avait des parents à supporter. Nous avons regardé au ciel. On a posé la question à Dieu. Que veux-tu qu'on fasse? Que veux-tu qu'on fasse? Nous avons remis l'argent dans leur enveloppe et on a passé la nuit sans savoir ce qu'il faut faire. Le matin, à 7 heures du matin, on a écouté beaucoup de bruit autour de nous, beaucoup de bruit dans les quartiers. On ouvre la fenêtre, on regarde beaucoup de gens sur la rue avec des bagages en main. Alors nous avons ouvert pour demander qu'est-ce qui se passe. Les gens nous ont dit, on est en train de piller, c'est le pillage, les militaires sont fâchés, ils ont détruit tous les magasins, les dépôts, et les gens sont en train de se servir. Et alors, nous, on a couru maintenant vers le magasin qui n'était pas encore volé ou pillé. Nous avons acheté tout ce qu'il fallait qu'on achète parce qu'on avait suffisamment d'argent pour payer des sacs de riz, des sacs de haricots, des sacs de farine, des boîtes de sardines, de pilchards et de tout ce qu'on peut avoir besoin pendant plusieurs mois. Et on a déposé dans notre maison. Ainsi, le mot qui était rare, qui n'était pas assez connu, était devenu un mot dans la bouche de tout le monde, c'était le pillage. Dimanche qui a suivi, nous sommes partis à l'église et beaucoup de gens n'étaient pas venus à l'église. La raison était que, après le pillage, beaucoup de gens ont perdu leur emploi. On a vu le patron, les investisseurs, les hommes d'affaires expatriés prendre leur avion pour rentrer dans leur pays. Et les gens qui n'étaient pas encore payés se sont retrouvés sans moyens, sans nourriture. Et nous avons commencé à distribuer ce que nous avons acheté. Amen. Nous avons compris pourquoi Dieu nous a donné une telle somme à ce moment-là.
Amen.
Que veux-tu que je fasse? Même devant votre propre finance, grand ou petit, et c'est là où parfois les gens ne font pas intervenir Dieu, ne posent pas la question à Dieu, que veux-tu que je fasse? Le texte qui nous a été lu par le pasteur au début était que Dieu est le possesseur de tout ce qui existe, tout ce qui est dans le monde. Il est le créateur, tout lui appartient. Non seulement ce qui est naturel, mais même ce que Dieu a, ce que les hommes ont cru qu'ils sont eux qui ont fait. Par exemple, les banques, toutes les banques appartiennent à Dieu et tous vos comptes dans les banques appartiennent à Dieu. Il peut en décider comme il veut. Quand tu... Les industries qui fabriquent les habits que vous avez portés, ceux qui fabriquent les meubles sur lesquels vous êtes assis, les assiettes que vous utilisez, le fer à repasser, le réchaud, le verre, et tout ce que vous possédez, que vous pouvez appeler le vôtre, appartiennent à Dieu. Et il en possède. Il vous prête tout simplement pour un temps pour que vous puissiez les utiliser. C'est ainsi que vous pouvez poser la question de savoir, Seigneur, que veux-tu que je fasse avec tout ce que j'appelle le mien, tout ce que j'appelle mes possessions? Que voulez-vous que je fasse? Ou que veux-tu que je fasse si tu as une relation personnelle avec lui? Il est ton père. Que veux-tu que je fasse? Quand tu lui poses cette question, tu peux aussi lui poser la question pour le temps que tu as, le temps qu'il t'accorde. Nous vivons dans un temps très, très, très difficile.
Ouais.
Personnellement, je ne sais pas quelle est votre expérience, mais chaque jour, inclus ce matin, moi, j'ai des nouvelles seulement de morts. Telle personne est morte au Canada, telle personne aux États-Unis, telle personne ici en Angleterre, où je suis pour le moment, telle personne sur, à l'Europe continentale, en Afrique. Ce matin même, j'en ai eu 4 qui sont partis de ce monde. Des nouvelles qui viennent de partout. Cela m'a rappelé un jour, à la fin de l'année, dans notre église à Pretoria, le dernier dimanche de l'année, nous avons un culte beaucoup plus flexible, où chaque personne pouvait dire un mot à Dieu, ou dire un mot à la communauté, le mot sur l'expérience qu'il a fait avec Dieu pendant toute l'année. Et alors, un dimanche, le dernier dimanche de l'année, un jeune garçon s'est mis debout et ce jeune a fait une expérience au cours de l'année. Il a été impliqué dans un accident de circulation. Lui et son aîné et les chauffeurs sont morts sur place. Il n'y a que lui qui était sauvé. Il n'y a que lui qui n'était pas mort. Et alors ce dimanche-là, il est venu pour poser la question à l'église. Pourquoi je ne suis pas mort? Pourquoi je ne suis pas mort? L'Église n'avait pas la réponse, même pas le pasteur ou lui-même. Tout le monde n'avait pas de réponse à cette question. Il est resté debout en attendant la réponse, que l'Église puisse lui dire, pourquoi moi je ne suis pas mort? Alors le pasteur, en attendant, il lui a dit, même si nous n'avons pas la réponse à cette question, mais nous avons seulement une question à mettre sur ta bouche. La question sera celle-ci. Dieu, que veux-tu que je fasse? C'est la réponse à sa question ou la question qu'on lui donne pour qu'il puisse poser à Dieu. Pourquoi Dieu t'a laissé vivant? Mais il faut que Dieu te dise ce que tu dois rester faire sur la terre. Toutes les nouvelles de mort, quand nous commencions l'année 2020, nous n'avons pas pensé que certains de nos amis, de nos frères, de nos cousins, de nos neveux, de nos amis, de nos frères et sœurs en Christ qui sont partis, puissent ne pas terminer l'année avec nous. Nous n'avons pas encore terminé l'année, bien sûr. Nous sommes au milieu de l'année. Nous ne savions pas qu'ils devraient partir et nous laisser. Mais ce n'est pas pourquoi pas nous? Qu'est-ce que nous avons fait pour ne pas partir? Au lieu d'attendre cette réponse, le coronavirus est entré dans toutes les maisons. Nous ne sommes pas passés par plusieurs endroits et nous devrons l'attraper, partir et mourir et quitter ce monde. Qu'est-ce qui a fait que nous puissions rester sur la terre? Quelle est la raison? Mais nous dire la raison n'est pas plus importante que de savoir qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que Dieu attend de nous pour le petit temps qui nous reste, pour le souffle de nous qu'il nous prête, qu'il nous prête chaque jour. Nous respirons chaque jour. Qu'est-ce que nous allons faire avec notre future respiration? Qu'est-ce que nous allons faire avec nos paroles et nos langues le lendemain? Qu'est-ce que nous allons faire avec nos oreilles et nos yeux? Qu'est-ce que nous allons faire avec nos mains? Qu'est-ce que nous faisons avec nos habits? Qu'est-ce que nous faisons avec nos lits? Qu'est-ce que nous faisons avec nos chaises? Qu'est-ce que nous faisons avec nos tables? Qu'est-ce que nous faisons avec notre nourriture? Alléluia. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Cette prière est faite rarement. Pourquoi? Parce que nous savons que nous connaissons ce qu'il faut demander à Dieu. Nous connaissons réellement notre besoin. Nous savons ce qu'il faut faire. Non, il faut des fois demander à Dieu qui connaît mieux que nous. Ouais. Nous avons un cantique qui dit, tu connais mieux que moi-même. Tu connais mieux que moi-même. Comme c'est lui qui connaît ce qui est bien, il faut lui poser la question. Que veux-tu que je fasse?
Amen.
Ici, Paul a su ce qu'il doit faire. Dieu l'a répondu. Parfois, Dieu ne répond pas toujours de la manière que nous attendons qu'il puisse nous répondre.
Ouais.
Dieu n'a pas répondu d'une manière miraculeuse, comme il a fait pour le mettre en contact avec lui. Il a utilisé les gens autour de lui. Il a utilisé les autres qui connaissaient Dieu avant. Il a utilisé son pasteur. Il a utilisé les aînés dans la foi pour qu'on puisse lui dire ce qu'il doit faire. Et Dieu a plusieurs manières d'utiliser les gens pour qu'on puisse faire sa volonté. Et quand vous passez, je vous exhorte aussi de le faire, parce que vous avez peut-être beaucoup de temps, au chapitre 10, vous lisez une autre histoire, le même livre, l'Acte des Apôtres, vous allez trouver qu'il y a une histoire presque semblable. Ici, c'est Pierre. Pierre qui va quelque part, il arrive dans un lieu où il se repose. Il a dormi comme tout le monde, son besoin physique de se reposer. Et quand il s'est réveillé, il avait le besoin physique de manger, il avait faim. Et ça, c'est réel, c'est vrai. On a tous faim, on a tous besoin de dormir. Il a fait quelque chose de normal. Mais heureusement, pour lui, Dieu envoie une vision pour lui montrer quelque chose d'intéressant, mais qui va au contraire de ce qu'il a toujours pensé. Il lui montre des reptiles, des animaux qui ne sont pas beaux à voir ni bien à manger, parce que dans sa culture, dans sa religion, il ne pouvait pas manger cela depuis l'enfance. Dieu lui dit de prendre et de manger. Il commence à discuter avec Dieu. Il ne demande pas la volonté de Dieu, mais il dit, mais non, moi depuis l'enfance, je ne faisais pas ceci. Ce n'est pas cela qui est dans notre culture. Ceci n'est pas dans notre habitude. Ce n'est pas cela dans notre coutume. Comment tu vas me demander, moi, de manger ce qu'il ne faut pas que je mange? Dieu lui dit, il ne faut pas appeler ce que moi j'ai créé l'impur. Alors vous savez que quand Dieu parle, il est celui qui détient les temps et les circonstances.
Amen.
Un temps qui a suivi et qui l'a déjà parlé aussi à quelqu'un d'autre. Cette histoire est semblable à celle de Paul. Parce que Paul, pendant que Dieu parle avec Paul, il parlait aussi avec Ananias. Parce qu'il est Dieu qui maîtrise tout. Au même Amen. Moment, il parlait avec Corneille, il lui montre aussi la vision. Et il dit, précipite les gens qui vont chez telle personne. Il donne même l'adresse, parce que Dieu connaît nos adresses. Alors, il envoie, que vous allez à telle place, que vous allez trouver Pierre là-dedans. Et vous allez le prendre qu'il vienne ici. Alors, Pierre qui n'avait pas posé cette question à Dieu, que veux-tu que je fasse? Dieu l'a aidé à savoir qu'il faut qu'il lui pose la question, que veux-tu que je fasse? On prend Pierre jusque chez Corneille. Il arrive, il trouve que Corneille était bien préparé. Il donnait des aumônes. C'était un homme qui était pieux. Et le Saint-Esprit descend à ces lieux. Et il baptise les gens. Il fait ce que Dieu voulait qu'on puisse faire. Ma soeur et mon frère, tu ignores ce que Dieu veut que tu puisses faire. Mmh. La raison pour laquelle il veut que tu puisses rester encore sur la terre. Mmh. La raison pour laquelle tu habites ton quartier, il y a une raison.
Merci, Seigneur.
La raison pour laquelle que tu travailles là où tu travailles, il y a une raison. Mmh. La raison pour laquelle il t'a emmené dans l'église, il y a une raison. La raison où tu te retrouves parfois dans un taxi, dans un bus, dans un train, ou dans un, je ne sais pas moi, de quel moyen de transport tu utilises. À chaque moment, il a une raison pour laquelle il te place là-bas. Tu pouvais lui poser la question, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Pourquoi je suis là où je suis à ce moment, à ce moment précis? Il ne le fait pas seulement pour les individus, il le fait aussi pour des familles. Pourquoi ta famille est là où elle est? Il ne le fait pas seulement pour des familles, il le fait même pour l'Église. Pourquoi l'Église, pourquoi la raison pour laquelle l'Église est dans cette ville qui s'appelle, ou dans ce village qui s'appelle Chemin? La question que l'Église doit se poser, pourquoi nous sommes dans cette ville? Pourquoi nous sommes dans ce pays? Pourquoi nous sommes sur ce continent? Pourquoi nous sommes dans ce monde?
Alléluia.
À ce moment-là, ne regardez pas votre petitesse, ne regardez pas votre limite. Il faut regarder Dieu illimité. Dieu est au-delà de nos limites. Paul est limité. Dieu peut utiliser au-delà de cela. Je vais vous dire ce que Dieu a fait avec vous, votre église. Hein. Pendant ce temps de pandémie, les temps de confinement, beaucoup d'églises qui ont commencé à utiliser la technologie comme vous le faites, ne prenaient pas la Sainte Cène. L'église s'est limitée à la prière, au cantique et à la prédication. Jusqu'au moment où on a appris qu'il y a une église sœur qui, elle, prend la Sainte Cène pendant qu'ils sont en train de faire leur culte pendant ce temps de confinement. On a appris de chez vous cette pratique et on l'a propagé plusieurs églises. Le corps de Christ à travers le monde a commencé à utiliser la Sainte Cène. Ils ont appris de chez vous. Ce qui fait que le confinement a aidé le corps du Christ de se connecter avec les autres. Donc l'église de chemin est devenue un exemple à suivre pendant plusieurs églises. Mais Dieu peut aussi vous utiliser pour beaucoup d'autres choses.
Amen.
Vous regardez vos limites, vous ne pouvez pas aller au-delà de cela. Mais quand vous regardez que Dieu est au-delà de ses limites, même le confinement, Dieu peut l'utiliser pour le bien-être de plusieurs personnes. Donc vous n'êtes pas limité, ne regardez pas vos limites. Ne regardez pas à ce que vous manquez. Regardez la grandeur de Dieu qui peut utiliser de petits nombres de gens pour faire de grandes choses et bouleverser le monde. Et Amen. Si vous suivez l'histoire de Paul, après, il a bouleversé des milliers de gens. Non seulement pendant qu'il était vivant, ses paroles continuent à se faire jusqu'à aujourd'hui. Ce matin, nous utilisons l'exemple de Paul. Il a écrit plusieurs épîtres et que le monde entier a utilisé pendant plus de 2000 ans pour un événement qui s'est fait, pour une petite question qu'il a posée à Jésus-Christ. Que veux-tu que je fasse? Je pense que comme Église, nous pouvons aussi nous poser la question, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Parce que, comme le pasteur l'a dit quand il me présentait, nous nous occupons des hommes d'État. Nous occupons des hommes qui influencent les autres dans leur vie. Et nous pensons que si ces hommes peuvent être utilisés par Dieu pour le bien-être spirituel, aussi pour leur nation, Dieu peut faire beaucoup avec eux. Et alors, nous utilisons un jour le moyen de technologie, nous utilisons la radio avant que cette technologie puisse avancer. une petite église qui n'a rien, qui n'a pas de moyens, dans un pays sous-développé, un pays pauvre, cette église a sponsorisé un jour une émission de radio. Et j'ai fait un message dans cette radio. Et quand le message est passé, le président de Tchad, un musulman, il a écouté le message sur le leadership et il a appelé tous ses ministres pour qu'ils puissent écouter ce message-là. Mais il ignore que c'était sponsorisé par un groupe de gens pauvres, une petite église pauvre dans un pays sous-développé. Et ils ont influencé plusieurs personnes sans le savoir. Dieu peut utiliser votre petite église, il peut utiliser votre petite vie, il peut utiliser avec vos limites pour faire beaucoup de choses au-delà de vous-même, parce qu'il est Dieu. Question de vous lui poser la question, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? J'ai rencontré, j'ai trois histoires à vous raconter, mais nous n'avons pas du temps. Mais c'est une histoire que je veux abréger, ces histoires sont semblables. C'est-à-dire, j'ai rencontré un pasteur. Ce pasteur avait presque toute la Bible par cœur. Il avait, et quand je l'écoutais, il prêchait sur l'épître d'Éphésiens. Il ne demandait pas, il n'ouvrait pas la Bible, il disait par cœur. Regardez Éphésiens chapitre 5, il commence à dire par cœur. Regardez Éphésiens 3, il dirait par cœur. Ça, c'est un pasteur. On peut dire pas, c'est un pasteur. Alors, j'ai rencontré aussi un président de la République. Et lui, il avait plusieurs psaumes, presque tous les psaumes par cœur. Et chaque fois qu'il faisait son discours public, il récitait un psaume. Maintenant, je voulais savoir pourquoi ces deux personnes avaient toute la Bible par cœur. Les deux étaient en prison. Ils ont passé leur temps en prison. Le premier s'est converti. Le pasteur s'est converti en prison. Et le premier livre qu'il a eu dans sa main, c'était la Bible. Et il a passé tout son temps à retenir la Bible par cœur. Et quand il est sorti de la prison, il s'est converti. Il est allé étudier la parole de Dieu aussi. Il est devenu par cœur, pasteur, mais tout en ayant la Bible par cœur. Le deuxième, il était aussi en prison. Et les livres qu'on lui a donnés, c'était la Bible. Et il n'a fait que lire la Bible en prison. Les deux ont quelque chose en commun. Ils avaient la Bible à cœur. Je leur ai dit, peut-être parce qu'ils voulaient sa Bible parce qu'elle était en prison. Mais des gens, beaucoup de gens ont le temps de lire la Bible, ils n'en ont pas. Et ils n'ont pas le temps de le lire. Vous savez pourquoi Paul a fait cette prière? Parce que Paul s'est retrouvé par terre. Paul est vaincu. Il est vaincu. C'est pourquoi il ne pouvait que dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Beaucoup de nos prières sont des prières de vainqueurs. Et j'ai même vu dans certains pays une église qui s'appelait Chapelle de vainqueurs. Il y en a dans plusieurs pays africains. C'est vrai que les chrétiens sont des vainqueurs. Mais avant d'être vainqueur, il faut d'abord être vaincu. Et quand on fait seulement les prières de vainqueurs, on n'a pas la possibilité de se mettre à la volonté de Dieu. On croit qu'on connaît tout. Il faut dicter à Dieu ce qu'il doit faire pour nous. Et c'est ce que nous faisons. Dieu, je connais ce que j'ai besoin et toi, tu dois connaître ma volonté et le faire. Mais ici, Dieu nous demande d'être d'abord vaincu avant d'être vainqueur. Parce que sa victoire, c'est notre victoire. Et notre victoire, c'est la victoire de Jésus à travers nous. Mais avant qu'il puisse nous donner, nous prêter sa victoire, nous devrons d'abord être vaincus. C'est pour cette raison qu'il faut se présenter devant lui comme des vaincus avant qu'il puisse nous prêter sa victoire.
Amen.
Mais beaucoup de gens qui ne connaissent pas aussi Dieu, ils croient qu'ils connaissent ce qui est bien. C'est ainsi que surtout vous, ici en Occident, vous n'avez pas besoin de Dieu. Beaucoup de gens n'ont pas besoin de Dieu. Ils n'ont pas besoin d'écouter la parole de Dieu. Cela ne vous exclut pas de leur dire un mot. Cela n'exclut pas de leur poser une question. Et surtout dans cette période de pandémie où les gens ne savent pas quoi faire. Ceux qui nous dirigent ne savent pas quoi faire. Les scientifiques ne sont pas très certains. Ils tâtonnent tous. Aujourd'hui, ils disent des choses, demain, le lendemain, ils changent. Et c'est différent de ce qu'ils nous ont dit hier. Ils tâtonnent tous. Et nous tâtonnons tous. Nous ne savons même pas où est-ce que nous allons Nos leaders ne sont pas éclairés. Et c'est aujourd'hui même que nous, les chrétiens, nous devrons élever la voix, dire à toute personne que nous allons rencontrer qu'il y a un créateur, et c'est lui qui connaît bien, qui connaît l'avenir. Dieu regarde le passé, il regarde le présent, il regarde l'avenir de la même manière, au même moment.
Amen.
C'est pourquoi n'ayez pas peur, ne soyez pas timides, les chrétiens. Ne soyez pas timides de parler aux voisins. Ne soyez pas timides de parler aux collègues du travail. Ne soyez pas timides de prendre votre téléphone, appeler votre connaissance, leur dire que Jésus t'aime. Des fois, une simple question, une petite question peut aider quelqu'un. Alors, j'ai rencontré quelqu'un au Burkina Faso. Cette personne venait d'une tribu qui est musulmane. Et il est chrétien engagé, je lui pose la question, comment tu es devenu chrétien? Il me dit qu'un jour, il a rencontré une personne qui lui a posé une question. Cette personne lui a demandé, comment faire pour entrer dans le paradis? Et il lui a dit, si j'ai fait beaucoup de bonnes choses, Dieu va mettre sur la balance. Là où ça va pencher positivement, je vais entrer au ciel. Ou si c'est négatif, j'irai en enfer. Et la personne lui a posé la question de savoir, mais si la balance n'est pas égale, le mal et le bien, où est-ce que tu iras? Et la personne est partie, il ne l'a jamais revu, il ne l'a jamais rencontré encore, mais la question est restée dans sa tête en train de trotter jusqu'au jour où il a rencontré Jésus-Christ. Parfois, une question peut aider quelqu'un, une simple question. Alors, vous posez la question à quelqu'un, vous disparaissez. Jésus va rester utilisé cela. La raison pour laquelle tu as rencontré cette personne, c'est pour lui poser la question et Dieu va l'utiliser. Le changement de la personne, ce n'est pas votre préoccupation. Votre préoccupation, votre mission à ce moment-là, c'est de dire ce que Dieu te demande de dire. C'est pourquoi quand on rencontre une personne, pose-toi la question, Seigneur, que veux-tu que je fasse? N'aie pas peur des gens, parce que les gens vont mourir. Ils peuvent mourir de corona ou pas. Vous n'êtes pas certain qu'ils vont terminer l'année. Il ne faut pas regretter quand ils vont partir. Mais sur le fait de les avoir rencontrés, vous vous êtes adressé à eux et votre mission est finie. Veux-tu que je fasse? Amen. Que veux-tu que je fasse? C'est notre question que nous pouvons nous poser à tout instant avec tout ce que nous avons. Le temps, le moyen financier, petit ou grand, les biens que nous avons, le temps que nous avons, la vie que nous avons, la langue que nous avons, la connaissance que nous avons, le cœur que nous avons, la bouche que nous avons, les relations que nous avons. Posons-nous la question à Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur,
Amen.
Que je veux-tu que je fasse? Que le Seigneur vous bénisse. Merci.
Amen. Amen.
Merci. Merci, mon frère Nicolas. Je disais merci à notre frère et pasteur Emmanuel pour ce message. Nous allons prier Dieu, après quoi nous allons passer à la Sainte Cène. Merci, notre Dieu. Et notre Père, parce que tu es le Dieu qui parle, tu es le Dieu qui agit,
Amen.
Tu es le Dieu qui a des projets avec chacun de nous, avec nos familles, nous individuellement, mais avec notre communauté. Nous te sommes reconnaissants parce que tu es le Dieu qui veut que, en tant que communauté, nous te demandions qu'est-ce que tu veux que nous fassions.
Amen.
Merci, Seigneur, parce que tu y es présent. Nous voulons maintenant passer à la table où toi, tu nous invites. Toi qui nous aimes et toi qui nous as envoyé un puissant sauveur. Celui qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché, qui a vaincu toute infirmité et toute maladie. Jésus-Christ le juste, lui par qui nous avons la victoire, parce que c'est en lui que nous sommes vainqueurs de maladie et de puissance des ténèbres. Car sans lui, nous ne pouvions rien. Oui, nous avons été vaincus par son Esprit Saint qui nous a révélé nos péchés, qui nous a révélé nos mauvaises manières de vivre et qui nous a permis de nous repentir de nos péchés et de nous tourner vers lui. Alléluia, que ton nom soit loué. Amen. Et que maintenant, Seigneur, nous voulons partager le pain et le vin. Nous te demandons de nous fortifier et de nous encourager. Merci pour la communion à ton sang, la communion à ton corps, la communion par ton esprit. Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que tu es celui qui continue à agir dans le monde. Nous te bénissons par Jésus, notre frère aîné, qui vit et qui règne éternellement. Amen.
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 Frères et sœurs, nous allons procéder au partage du pain et du vin. Je crois que chez vous, vous avez votre pain, vous avez votre vin, n'est-ce pas? Le pain que nous rompons représente ou symbolise le corps de Jésus, notre Seigneur, celui qui a été crucifié, celui qui a été enseveli, celui qui a vaincu la mort, Jésus qui est revenu à la vie et qui siège à la droite du Père.
Amen.
Nous voulons le manger en nous rappelant que c'est lui qui a donné sa propre vie pour nous. De même, nous voulons partager le vin en signe de communion, n'est-ce pas, à son sang. Son sang qui a coulé à la croix pour le pardon de nos péchés. Et c'est par le sang de Jésus-Christ que Dieu, n'est-ce pas, a renouvelé ou bien a conclu une nouvelle alliance avec nous. Parce que vous savez que par la première alliance, nous n'avons pas été capables, nous l'avons rompu. Mais Jésus est venu donner sa vie en rançon de plusieurs. Quelle joie, frères et sœurs, de partager ensemble ce pain et ce pain. Je vais demander au pasteur Emmanuel de prier pour le pain. Je vais demander à notre frère Nicolas de prier pour le vin, après quoi nous allons prendre.
Père, nous voulons te dire merci du fait que tu as laissé ton cœur brisé, ton corps brisé, pour que nous puissions nous réconcilier avec le Père, mais aussi pour que nous puissions avoir la communion entre nous. Que ce pain te soit accordé, pour que nous puissions être en communion éternelle avec toi. La communion qui ne se termine pas et qui va jusque dans l'éternité. Merci pour cela. Merci Dieu.
Merci Seigneur.
Merci Seigneur.
Seigneur, nous te disons merci pour ce sang qui a coulé, ce sang qui symbolise la vie. Tu as donné ta vie, Seigneur, pour que nous qui étions morts, nous puissions vivre. Nous puissions vivre d'une vie éternelle, ta vie que tu as donnée. Nous disons merci, Seigneur, parce que par ce sang, tu viens effacer tous nos péchés, toutes nos transgressions. Nous disons merci, Seigneur, parce que tu as purifié nos cœurs. Aujourd'hui, nous sommes saints devant toi, non parce que nous avons accompli des choses, mais parce que toi, tu as accompli ce sacrifice vivant qui a été agréé par le Père. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce vin que nous partageons. Merci de le bénir et merci de ce qui peut nous donner les forces de marcher avec toi et de marcher vraiment à ta suite. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen.
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 Alors, mangeons ensemble. Vous qui êtes avec votre voisin dans votre maison, partagez avec votre voisin, n'est-ce pas, ou le plus proche de tous vos prochains. Boire le vin ou le jus de raisin ensemble. En signe de communion au sang du Christ, Après avoir mangé et bu, nous pouvons maintenant écouter un chœur. Et après quoi, nous allons prier le Seigneur pour le remercier pour tous ses bienfaits envers nous.
Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix.
Bénissons le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur pour lui dire merci pour tous ses hauts faits, pour ses cultes bénis, pour la présence de chacun d'entre nous. Dieu nous connaît et Dieu veut que nous lui parlions de tout notre cœur. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? À nous unir pour prier pour la fin, donc la bénédiction. Je demande au pasteur Emmanuel de congédier l'Église par la bénédiction de Dieu. Prions donc à pasteur Emmanuel.
Seigneur, merci pour le privilège qui est le nôtre d'être ensemble ces jours et ces dimanches, de te parler, de te prier, de te chanter, de te louer, de t'exhorter et de nous exhorter. Mais aussi, Seigneur, de prendre la communion ensemble, en nous connectant à toi et entre nous, quelle que soit la distance qui nous sépare. Merci pour ta bonté. Nous voulons te confier la semaine, Seigneur notre Dieu. Sois toujours devant nous, en nous aidant d'être à ton écoute, afin de nous diriger selon ta volonté.
Amen.
Que la grâce de Dieu le Père, l'amour de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soit notre partage toute la semaine.
Amen.
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 Amen. Que Dieu vous bénisse.
Amen. Merci.
Bonne semaine à chacun.